et l'on retrouve en...
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Carence de commandement, faible combativité, les mots qui accablent les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont identifiés dans un rapport au vitriol rendu public en janvier dernier à New York au siège de l'organisation. L'audit avait été décidé au mois de septembre suite à une attaque contre la MINUSMA au Mali. Ce qui s'avère nécessaire aujourd'hui est une refonte des modalités opérationnelles pour améliorer la protection des casques bleus, notamment sur les 5 zones de déploiement jugées les plus dangereuses, Mali, République démocratique du Congo, Centrafrique, Soudan du Sud et Darfour, également et surtout faire sortir de l'inefficacité les missions de maintien de la paix de l'organisation, une tâche qui promet d'être longue là où cependant il y a urgence. Nos invités, Alexandra Novoselov, chercheur invité à l'International Peace Institute de New York, également chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université de Paris 2 Panthéon-Assas. Alexandra Novoselov a dirigé l'ouvrage Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance dans la collection Biblis des éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Marc de la Sablière, ambassadeur de France, ancien représentant permanent de la France au Conseil de sécurité entre 2002 et 2007, enseignant à Sciences Po en charge du séminaire sur le Conseil de sécurité. Son dernier ouvrage, Indispensable ONU, paru dans la collection Tribune du Monde des éditions Plomb. Bonjour.
Bonjour.
Matériel insuffisant, vulnérabilité, mandat inadapté, l'inadéquation des missions des casques bleus au nouvel environnement sécuritaire est de plus en plus dénoncée. Il semble bien qu'il soit plus difficile de maintenir la paix que de faire la guerre. C'est le constat qui s'impose au regard des moyens alloués. Ainsi, un soldat américain coûte 800 000 dollars par an, alors qu'un casque bleu n'en coûte que 20 000. Quand on terme même de maintien de la paix, il semble de moins en moins adapté aux situations, celles-là même pour lesquelles il serait davantage question d'imposer la paix. Alexandra Novoselov, d'aucuns disent que les Nations Unies sont à la résolution des conflits, ce que l'homéopathie est au cancer. Un commentaire ?
Je m'inscris complètement faux par rapport à cette formule un peu lapidaire. Je trouve que il faut d'abord savoir de quoi on parle. Il faut savoir de quels moyens on alloue, comme vous le disiez, à ces opérations de maintien de la paix. Et puis, comme je l'ai écrit récemment, on parle beaucoup des échecs, on parle jamais des succès de ces opérations de maintien de la paix. La mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire vient de fermer. La mission au Libéria ferme le mois prochain. Alors, bien entendu, dans ces deux pays, les défis restent encore énormes, mais quand même, les Nations Unies, l'opération de maintien de la paix qui a été déployée dans ces deux pays a permis quand même d'accompagner, tant bien que mal, ces pays vers une sortie de crise. Mais c'est bien entendu, elle n'a pas pu tout faire et une opération de maintien de la paix ne peut jamais tout faire. Et encore une fois, ça dépend aussi des ambitions qu'on assigne à ces opérations. Et donc voilà.
Jean-Marc de la Sablière.
Moi, je trouve la formule à la fois lapidaire et sévère. L'histoire des opérations de maintien de la paix, si c'est de ça que l'on évoque dans la formule, est différente. Pensez au Mozambique, pensez à la Namibie, pensez à la Côte d'Ivoire plus récemment, pensez au Libéria qui va fermer. Donc, l'histoire est différente. Et qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre qu'il y a eu de vrais succès, il y a eu aussi des échecs, et il y a des situations qui aujourd'hui, je dis aujourd'hui, sont des situations très très compliquées dans un certain nombre de d'opérations, notamment en Afrique, dont on parlera sans doute.
À l'Afrique qui reçoit 8 missions de la paix de l'ONU sur les 15 qui ont cours actuellement. Alors évidemment, on parlera des échecs, des succès. Qu'est-ce qui fait qu'une opération est un échec ou un succès ? Quelques chiffres peut-être pour situer le débat. Les missions de maintien de la paix, c'est 7,3 milliards de dollars pour le déploiement d'entre 95 000 et 100 000 personnes. Ça représente 0,4% des dépenses militaires mondiales. C'est donc pas grand chose. 15 missions, je le disais, entre 95 000 et 100 000 casques bleus. Qu'est-ce que l'on peut dire des missions à succès évoquées, des missions qui pose problème, c'est un euphémisme. On peut parler du Mali, on peut parler du Sud-Soudan, on peut parler de la République démocratique du Congo, également de la Centrafrique. Et la Centrafrique, ça fait des années. Alexandra, est-ce qu'il y a une recette? Comment expliquer que les pays que je viens de citer ne parviennent pas, malgré les moyens de l'ONU déployés, à se sortir des situations?
Alors, bien sûr, la réponse est complexe, c'est-à-dire que, d'abord, je crois que le premier élément, c'est que on a assigné à ces missions des ambitions beaucoup trop importante. On peut pas remettre sur pied un État, par exemple, qui n'a jamais existé, comme en RCA, en un an. C'est pas possible. Nos propres États se sont faits en plusieurs siècles. Deuxième élément, on n'arrive pas à faire en sorte que l'ONU, d'abord, c'est plusieurs États contributeurs, c'est un Conseil de sécurité qui rarement fait un peu ce que j'ai appelé le service après-vente politique, c'est-à-dire que pour qu'une une mission réussisse, il faut aussi faire pression sur les parties au conflit. C'est pour ça qu'il y a des embargos, des sanctions qui sont prises. Mais par exemple au Sud-Soudan, on n'y a toujours pas d'embargo sur les armes, donc vous pouvez pas faire la paix alors que les armes continuent à circuler. Faire la paix, c'est tellement plus compliqué que faire la guerre d'une certaine manière. Ensuite, les États contributeurs, c'est vrai qu'ils sont loin de leur pays. Qui veut mourir pour Djouba, Bangui ou Kinshasa, il n'y en a pas beaucoup. Donc tout ça fait que plus vous assignez des missions importantes, des ambitions importantes à ces opérations, moins ça réussira. Je crois que l'avenir est quand même vers quelque chose de plus modeste, de plus ciblé. Et c'est là où on pourra voir et mesurer vraiment les progrès, parce que vous pouvez pas mesurer des progrès d'année en année dans ce domaine-là.
Alors, si j'entends bien ce que vient de dire Alexandra Novoselov, Jean-Marc de la Sablière, c'est ce décalage finalement, quand elle évoque les ambitions trop importantes des missions de la paix de l'ONU, décalage entre les décisions prises à New York dans le cadre du Conseil de sécurité. Ils sont 15 membres, pas tous membres permanents, on le sait. Décalage entre ce qui se passe au sein du Conseil de sécurité et la réalité du terrain.
Oui, c'est un des problèmes. Je dirais qu'il n'y a pas que ça. D'abord, je pense que vous avez tout à fait cité au départ les opérations qui fonctionnent mal. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi toutes les missions d'observation, n'oublions pas aussi les missions d'interposition. Vous avez ciblé un certain nombre d'opérations qu'on appelle missions multidimensionnelles en Afrique qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Alors, pourquoi? Je partage l'analyse d'Alexandra. Je crois qu'il y a pour moi quelques raisons essentielles. Je pense que la raison, et je viendrai ensuite à l'affaire du Conseil, je pense que la raison la plus importante, à mon avis, c'est que on a oublié, je ne pense pas qu'on ne le savait pas, ou on n'a pas tenu compte suffisamment du fait qu'on ne peut pas déployer une opération réussie s'il n'y a pas un bon accord de paix. Ouais. On ne peut pas.
Et les missions, généralement, sont déployées avant même qu'il y ait accord de paix, de
plus
en plus.
On ne peut pas. Elles viennent pour accompagner, pour aider. Alors, pourquoi? C'est parce que des pays, dans l'urgence, alors qu'on se battait encore, qu'il y avait encore des guerres civiles, que la paix, la situation n'était pas stabilisée, des pays au Conseil de sécurité, dont la France par exemple pour le Mali, ou les Américains au Sud-Soudan, ont poussé à ce qu'on déploie des forces. Et qu'est-ce qu'on constate au Sud-Soudan depuis maintenant 2015? Il n'y a pas d'accord politique crédible. Bon. Au Mali, l'accord n'est pas appliqué. Donc ça, c'est une raison fondamentale. Deuxièmement, le contexte aujourd'hui, dans beaucoup de situations, est un contexte de très grande violence. Et il y a, dans le nord du Mali, en plus, le problème du terrorisme. Alors ça pose des problèmes, parce que les casques bleus, ils sont pas là pour lutter contre le terrorisme. Donc, ça pose des problèmes de protection.
C'est pas leur mission, mais ils y sont confrontés.
Ils sont confrontés, d'accord. N'est-ce pas ? Ensuite, et pour revenir à ce que vous indiquez, je dirais que non seulement, quand on adopte un mandat sur lequel il y a eu un consensus, pour son application, non seulement l'unité du Conseil de sécurité n'est pas suffisante pour aider le secrétaire général, parce qu'il y a des difficultés d'application, et le secrétaire général a besoin d'un Conseil de sécurité très uni. Or, cette unité, il ne la trouve pas toujours, parce qu'il y a pas mal de nuances entre les membres du Conseil sur la question de l'usage de la force, les contributeurs de troubles dont on parlera. Et on constate également que les missions difficiles qui ont réussi sont celles où il y a eu un leadership. Regardez la Côte d'Ivoire.
Un leadership national.
National, ça veut dire d'un membre, si vous voulez, du un leadership, il peut être national ou il peut être, à un moment donné, l'ONU peut, ça arrive plus rarement, mais peut jouer ce rôle, mais un leadership national, je veux dire, qui aide, si vous voulez, une action conjointe, le secrétaire général, ce leader et l'ensemble du Conseil de sécurité, c'est ce leader qui va fabriquer le consensus au Conseil de sécurité. Or, on constate par exemple que Sud-Soudan, récemment Jean-Pierre Lacroix, le patron des forces de maintien de la paix, le regrettait, il n'y a pas suffisamment d'unité et pas suffisamment de leadership au Conseil de sécurité. Donc voilà, pour revenir à ce que vous disiez, entre le Conseil et l'application, on a besoin de l'accord des membres du Conseil au moment du mandat et on a besoin de cette unité dans la mise en œuvre pour aider le secrétaire général.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors, je vais approfondir sur ce que vient de dire à l'instant Jean-Marc de la Sablière, Alexandra Novoselov, quant au leadership national. Il est vrai que dans l'enceinte onusienne, le principe cardinal est la souveraineté des États, quel que soit leur degré d'existence réelle. Il y a, de ce point de vue-là, véritablement quelque chose à revoir.
Alors, bon, l'Organisation des Nations Unies est une organisation d'État, hein, intergouvernementale. Donc, la souveraineté, on ne peut pas la mettre en cause. Mais de chaque État, c'est pas possible. Mais il y a notamment un des principes cardinaux du maintien de la paix. Hein, il y en a trois. Il y a le consentement de l'État, hôte, pour déployer. Il y a l'usage de la force uniquement en cas de légitime défense ou de défense du mandat. Et trois, il y a l'impartialité. Et ce troisième principe, l'impartialité, il est de moins en moins appliqué. C'est-à-dire qu'on pense que le consentement de l'État hôte au déploiement empêche finalement les Nations Unies à dire un certain nombre de vérités à ces États hôtes qui soit n'appliquent pas l'accord de paix, soit l'appliquent mal, soit ils sont complètement opposés.
Alors juste pour préciser, cette absence de critique de la part de l'ONU pour ces États hôtes, il est d'éviter que les forces de l'ONU précisément soient mises à la porte. C'est de cela dont il est question.
Oui, et puis qu'elles soient acceptées dans le pays pour faire le travail qui a été donné, dicté par le Conseil de sécurité. Je rappelle que quand même, une résolution crée à chaque fois ces opérations de maintien de la paix. Une résolution, c'est une sorte de feuille de route qui dit à chacun ses devoirs et ses obligations. Et on a eu tendance ces dernières années à ne pas rappeler certains États hôtes à leurs obligations. Après, c'est vrai qu'il y a, par exemple, dans le cas du Sud-Soudan, je crois que les Américains ont un peu baissé les bras, hein, parce que c'était eux qui étaient les leaders sur ce dossier au Conseil. Ils ont un peu baissé les bras, sachant plus trop quoi faire, et en ne faisant pas les pressions nécessaires sur Salva Kiir, qui est quand même à l'origine du conflit. C'est un conflit de personnes entre le président et son ancien premier ministre. Et donc, il n'y a pas ce travail, vous voyez, de service après-vente politique. Et donc, ces missions-là sont laissées un peu à elles-mêmes, dans des situations très complexes, où elles ont très peu de moyens. Je considère que 8 milliards de dollars pour 15 missions, c'est quand même très peu. Hein. Si on les compare, vous avez donné les chiffres tout à l'heure, à d'autres opérations, c'est un mois de guerre en Afghanistan au plus fort de la guerre en Afghanistan. Donc vous voyez, c'est des missions qui sont très très bon marché en réalité et qui manquent de ce fait d'un certain nombre de moyens quand il s'agit d'aller au-delà d'un consentement qui serait là dans le pays.
Il y a un certain paradoxe, Jean-Marc de la Sablière, entre ce qu'évoquait à l'instant Alexandra, qui parlait de missions laissées ou livrées à elles-mêmes. La machine onusienne du maintien de la paix, c'est pourtant professionnalisée. Donc finalement, c'est presque inversement proportionnel, hein, si on doit, ou en tout cas on peut se poser la question. Donc avec un département dédié, c'est le fameux département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, qui est dirigé depuis 20 ans par un représentant français. On peut parler aussi des scandales, dont on dit de ce département qu'il est la machine à scandale de l'ONU. Pourquoi la France y tient-elle tant ?
Bon, je pense que la raison fondamentale, c'est qu'elle peut être amenée à intervenir elle-même en Afrique et qu'elle a besoin, si vous voulez, d'intervenir en liaison avec les Nations Unies. Donc elle est quand même très 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 active et donc c'est son intérêt, si vous voulez, d'avoir avec le secrétaire général une relation de très très grande confiance et l'autre raison, c'est que c'est le poste le plus prestigieux après le secrétaire général et que voilà, et beaucoup essayent de l'avoir. Si je peux rebondir sur ce que vous avez dit, moi je pense que on oublie trop de dire que, à propos du département des opérations de maintien de la paix, que même si cela est très difficile, il y a un effort constant de réforme et d'amélioration, qui est très compliqué, on pourra revenir dessus après, mais on n'a pas fait le rapport Brahimi, on s'est arrêté après. Hein. Je veux dire, la situation actuelle, elle est examinée par des rapports qui sont très bons, le rapport Amos-Horta, le rapport du général Cruz, et on en débat, on en discute, n'est-ce pas ? Donc c'est pas simplement un constat, il y a des propositions qui sont faites. Donc, deuxièmement, l'affaire du consentement. Moi, je partage tout à fait ce que dit Alexandre. On constate, si vous voulez, que le consentement qui est absolument essentiel, parce qu'on n'est pas dans une situation où on impose la force où on règle par la force une situation. Non, on est dans le cadre des opérations de maintien de la paix qui supposent que les parties consentent à la présence, n'est-ce pas, des Nations Unies. C'était un principe majeur que Dag Hammarskjöld avait fixé tout à fait au départ en 1956, quand on avait fait la force d'interposition lors de l'affaire de Suez. Or, on constate aujourd'hui que ce consentement, il existe au départ. Mais qu'au fond, c'est plus une cohérence qu'un consentement. Est-ce qu'on peut véritablement parler d'un consentement quand le représentant spécial du secrétaire général est obligé de négocier constamment avec le gouvernement ?
Oui. Hein ?
Il est dans une situation assez compliquée. Bah. Et troisièmement, à dire un mot de la force. Normalement, puisqu'il s'agit d'opérations de maintien de la paix, et non pas d'une imposition de la paix, lorsqu'il arrive que dans certaines situations de très grandes tensions, où l'ONU est prise pour cible, où il y a une déstabilisation, il est nécessaire d'utiliser, comme on dit aux Nations Unies, à titre tactique, pas pour régler l'ensemble du problème, mais à titre tactique pour rétablir un peu une situation dans une zone, si vous voulez, la force. Eh bien, les Nations Unies ont souvent, dans le passé, fait appel à des États. En Ituri, par exemple, on a fait appel à la France et à l'Europe. Souvent aussi, vous avez des situations où des États, des nations, si vous voulez, avec un mandat de l'ONU, viennent appuyer la force des Nations Unies. C'est le cas de Licorne, c'était le cas de Licorne en Côte d'Ivoire. Parce que là, à certains moments, il faut pouvoir peut-être utiliser la force. Mais on est dans une situation où on a besoin d'une plus grande robustesse maintenant des forces pour deux raisons. La première, c'est que vous ne pouvez pas toujours faire appel à un État. Quelquefois, il faut, comme c'est le cas actuellement au Kivu, par exemple, en République démocratique du Congo, il faut de temps en temps utiliser la force. Or là, donc on a donné des mandats, et ça, on peut en reparler, c'est assez compliqué pour les forces des Nations Unies, pour les contributeurs de troupes. Et donc, l'ONU est aussi confrontée, elle a l'obligation, elle en fait une priorité, de protéger les civils, n'est-ce pas ? Donc voilà, tout ça est assez compliqué.
Protection des civils, plus de robustesse des forces. Alexandra Novoselov, je sais que vous souhaitiez réagir. Je vous propose d'attendre le début de la deuxième partie de l'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités, Alexandra Novoselov et Jean-Marc de la Sablière, dans quelques instants.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Nous retrouvons nos invités, Alexandra Novoselov, chercheur invité à l'International Peace Institute de New York, également chercheur associé au centre Thucydide de l'université de Paris 2 Panthéon-Assas. Alexandra Novoselov qui a dirigé l'ouvrage Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance dans la collection Biblis des éditions du CNRS. Et Jean-Marc de la Sablière, ambassadeur de France, ancien représentant permanent de la France au Conseil de sécurité entre 2002-2007, enseignant à Sciences Po en charge du séminaire sur le Conseil de sécurité. Son dernier ouvrage, Indispensable ONU, paru dans la collection Tribune du Monde des éditions Plomb. On a parlé dans la première partie de l'émission des opérations menées surtout de manière politique, Alexandra Novoselov. Il est vrai que le militaire est plutôt mal considéré à l'ONU. L'ONU qui a eu tendance à négliger l'importance d'avoir une composante militaire solide, dotée d'une chaîne de commandement claire, des capacités de réaction et de protection adaptées et robustes, qui permettraient de mieux soutenir l'action politique. Est-ce qu'il vous semble que dans les évolutions nécessaires, en cours, cette tendance est amorcée ?
Alors, c'est vrai que le rapport Kruse qui est sorti, que vous aviez évoqué tout à l'heure, devrait aller vers cette tendance de redonner, qu'on refasse attention aux composantes militaires, à la partie militaire d'une opération de maintien de la paix, hein, qui représente à peu près 80% en général des effectifs déployés. C'est vrai qu'il faut plus d'interopérabilité, même si c'est très compliqué quand vous avez les Nations Unies ont près de 120 contributeurs de troupes, donc c'est très très épars, très très différent, donc c'est très compliqué d'avoir une interopérabilité. Déjà c'est compliqué pour l'OTAN avec 19 États membres, avec l'ONU, c'est pratiquement impossible. Donc il y a ces aspects-là, mais c'est vrai que ce que dit le rapport Kruse, c'est que des fois, il faudrait ne pas accepter un certain nombre de contingents qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas équipés, qui ne sont pas entraînés pour ce faire, mais pour des raisons politiques, parce qu'on a encore une fois du mal à dire non à des États. C'est vrai que c'est très compliqué de dire à un État, un ambassadeur à New York, ben que ces troupes ne font pas l'affaire. Mais les Nations Unies, donc en l'occurrence le secrétariat, devraient avoir ce courage de dire non à certains États. Ou alors de rapatrier des contingents qui soit ont commis des abus sexuels, bon bah ça maintenant c'est compris, mais même des troupes pour lesquelles on pourrait les accuser d'être de faire de la non-assistance à personne en danger, ça devrait être plus facile de rapatrier ces gens-là. Je pense qu'on y vient. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, la professionnalisation du maintien de la paix est en marche depuis maintenant plusieurs années et des progrès énormes sont faits. Maintenant, ce qui pêche toujours, et c'est pour ça qu'on en est encore là, c'est la partie politique, c'est-à-dire d'accompagnement politique pour dire à certains, vous voulez contribuer, mais il faudrait que vous soyez mieux préparés, mieux équipés, sinon la porte est fermée. Ou dire aux États hôtes, respecter les résolutions du Conseil de sécurité.
Il faut plus d'exigences, c'est presque cela que je retiens, Jean-Marc de la Sablière, de ce que vient de dire Alexandra Novoselov. Plus d'exigences, avec aussi davantage de stratégie, probablement, dans les missions qui semblent un peu sans boussole. Jean-Marc de la Sablière.
Oui, je pense qu'effectivement, il faut plus de stratégie, je reviendrai sur ce point. Je crois qu'il faut, en lisant le rapport Kruse, c'est assez clair, je veux dire, il faut se demander pourquoi, au fond, on est confronté ou on a l'obligation d'avoir une composante militaire plus robuste dans ces opérations multidimensionnelles. Je crois qu'il y a deux raisons. La première, c'est que les forces de maintien de la paix peuvent être conduites sur un plan tactique à utiliser la force. Ça peut arriver, comme en République démocratique du Congo, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et deuxièmement, dans un climat de violence et parfois de terrorisme, elles doivent pouvoir se protéger. Et donc se protéger, ça veut dire, comme dit le général Kruse par exemple, parfois, non pas être en situation d'attente, mais aller chercher l'ennemi qui va vous atteindre. Donc on a besoin, si vous voulez, de forces plus robustes. Mais, pour revenir à la question de la stratégie, Ce compromis qu'il faut trouver entre l'usage militaire et le fait que le règlement est toujours politique, donc où est ce compromis, n'est-ce pas, ne doit jamais, justement, oublier que la stratégie de sortie est une stratégie politique. Et c'est parce que on n'avait pas, je reviens dessus, suffisamment d'accords politiques où ils n'étaient pas de bonne qualité, qu'on peut, je crois, tout à fait dire, comme vous l'avez dit, que quelquefois, on a l'impression que les opérations sont sans boussole. Mmh. Parce que, ou bien la boussole était de mauvaise qualité, ou bien elle n'existait pas. Mmh. Et donc, il faut revenir, justement, à cette dimension de la politique, n'est-ce pas ? C'est ce que dit le rapport Ramos-Horta, d'ailleurs, hein, n'est-ce pas ? Alors, sur les troupes, l'utilisation de la force par des casques bleus suppose que les pays qui envoient, ou qui forment ces contingents, qui envoient des contingents, soient d'accord. Or, on constate, comme l'a dit Alexandra, que ce n'est pas toujours le cas. Il y a ce qu'on appelle des caveats aussi. Et ces pays, qui viennent, contingents qui viennent de très loin, constatent que l'année dernière, il y a eu 50 casques bleus tués. Un peu plus, d'ailleurs. Donc 15 à la fin de l'année, malheureusement, en RDC. Donc ils sont assez réticents, n'est-ce pas, à l'idée d'utiliser la force. Alors vous pourriez vous dire, mais alors il n'y a qu'à demander. D'abord, on peut refuser, on peut faire ce qu'a dit Alexandra. Moi, je pense qu'elle a tout à fait raison. Mais on peut demander, mais alors, pourquoi ne pas demander à des pays qui ont l'avantage de participer souvent à des opérations militaires, comme la France ou autre, n'est-ce pas, de déployer des casques bleus. Mais ces pays, ils sont prêts à donner un coup de main quand c'est nécessaire à l'ONU, mais ils ne sont pas prêts à laisser en permanence des milliers d'hommes, n'est-ce pas ? Et donc, c'est assez compliqué pour l'ONU. Alors, pour revenir à ce que vous dites, moi, je pense que plus d'exigence est nécessaire, et que le général, d'ailleurs, Cruz le dit, et puis il aimerait aussi qu'il y ait, au moment de la formation, des tests, n'est-ce pas, qui soient faits. Hein, voilà, donc on va vers, je pense, une plus grande professionnalisation, et c'est pas toujours facile parce que l'ONU a parfois du mal à trouver les contingents. N'oublions pas qu'il y a à peu près 100 000 casques bleus.
Mmh. Alors, si on va plus loin que ce que vient de dire Jean-Marc de la Sablière, Alexandra Novoselov, quant à davantage d'exigences, est-ce que la limitation dans le temps des missions ne doit pas être évoquée ? On peut souligner que les membres du Conseil de sécurité n'ont pas très souvent le courage de voter le désengagement, hein, à cause d'un précédent tragique, c'est le génocide rwandais, ni le courage donc d'accorder les moyens nécessaires et définir une vraie stratégie de résolution de conflits.
Oui, alors la limitation dans le temps, bah, ça dépend aussi de la progression de l'accord de paix. Je veux dire, on oublie souvent que on dit bon, ces missions ont 30 ans, 40 ans, comme le Sahara occidental, Chypre, etc. Mais tout ça, ça dépend pas de l'ONU, ça dépend des parties en présence. Si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, et on l'a vu encore avec Chypre l'année dernière, l'ONU peut aider à trouver un accord, mais je veux dire, si les parties ne trouvent pas d'accord, les opérations restent. Donc, ce n'est pas l'ONU en tant que telle qui est la cause de cette longévité, entre guillemets, de ces missions, mais c'est les parties au conflit. On peut dire il faudrait enlever ces casques bleus-là. Bon, d'abord, le Sahara occidental ou Chypre, finalement, ça coûte pas très cher. Et puis, c'est toujours cet éternel problème. Si on enlève les forces, est-ce que le conflit ne reprend pas ? Et donc, principe de précaution, on garde quand même des forces qui, au final, ne coûtent pas très cher. Donc, c'est ça qui limite un peu. Et puis, c'est vrai que, par exemple, en RDC, on pourrait dire, la MONUSCO, à quoi ça sert ? On va pas cautionner un gouvernement qui va bourrer les urnes et qui va juste se faire réélire. Et on pourrait enlever la MONUSCO pour dire, on n'est pas complice de ça. Mais effectivement, enlever la MONUSCO, d'abord, c'est plus de 20 000 personnes qu'on enlèverait. Ça coûte cher de les enlever. Et après, s'il y a un massacre qui se passe, on va accuser l'ONU d'avoir retiré ses troupes trop vite. Donc, on est dans un dilemme permanent et il n'y a pas de bonne solution. Donc, on maintient les troupes
parce que au final ça coûte quand même moins cher de les maintenir, même si c'est à $1 milliard. Voilà, c'est une sorte aussi de principe de précaution.
Principe de précaution qui frôle l'enlisement, hein. C'est cela qu'on
oui, bien sûr,
en considération. Alors pour ce qui est des pressions que vous évoquiez, il y a tout un panel d'outils pour contraindre les acteurs à bouger, conditionnement de l'aide au développement, vote de sanctions individuelles et ciblées, bon, menace de retirer la mission de l'ONU, on l'évoquait. Quand il est question des parties en conflit, ce qui finalement ajoute à la difficulté, Jean-Marc de la Sablière, c'est que, sans doute pour éclairer un petit peu aussi nos auditeurs, c'est vrai que les conflits ne sont plus le résultat de rivalités d'État, et je pense que ça joue beaucoup peut-être dans la difficulté de ces missions de la paix, avec parfois des accords de paix qui sont signés de mauvaise foi, et le non-respect du droit de la guerre.
Tout à fait, je pense, si vous voulez, que nous sommes aujourd'hui, l'ONU aujourd'hui n'est dans ses missions d'opération de maintien de la paix, a très peu d'opérations de force d'interposition dans des conflits entre États. L'essentiel des conflits sont des conflits internes, n'est-ce pas ? Et donc vous avez des acteurs non étatiques qui sont des groupes armés qui, au fond, ne sont pas sensibles à un gel de leurs avoirs ou à des sanctions. Donc les moyens de pression ne sont pas très faciles. Mais pour l'ONU, quand elle constate parfois par la faute des membres du Conseil de sécurité qui ont accepté des missions alors qu'il n'y avait pas d'accord de paix, quand elle constate que ça ne se passe pas très bien. Partir n'est pas évident, parce que la situation peut être bien pire. Et je vous rappelle que peu de temps avant le génocide au Rwanda, la pression qu'exerçait le Conseil de sécurité sur les partis qui n'arrivaient pas à l'application de l'accord d'Arusha, c'est « on va partir ».
C'était la menace.
Donc partir, si vous voulez, c'est laisser une situation qui peut être encore plus chaotique. Le responsable des forces de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, dans un interview récent, constatait les difficultés qu'il y avait au Soudan, mais il disait à juste titre que, malgré tout, tous les jours, il protège beaucoup de civils.
Oui, bien sûr.
Et donc, partir, c'est laisser ces civils à l'abandon. Alors, il y a un point qui apparaît aujourd'hui de manière extrêmement claire et qu'on n'avait pas vu il y a quelques années quand on a monté ce qu'on appelle les missions multidimensionnelles, où on fait à la fois politique, le désarmement, la force, la reconstruction d'un État, d'une armée, tout ça. On ne peut pas tout faire à la fois. Et aujourd'hui, on arrive à, je pense, à une conclusion de bon sens, c'est qu'il faut hiérarchiser un peu les missions. Et dans ces missions qui marchent pas bien, comme on l'a dit, il faut se centrer sur le problème de l'accord politique et se centrer sur la question de la sécurité. Et puis, peut-être laisser d'autres éléments pour après, mais il faut se centrer là-dessus. Et ça ressort de plus en plus, si vous voulez, des rapports, ce qu'on appelle la hiérarchisation des priorités.
Oui, la priorisation. Et une redéfinition, finalement, des périmètres de ces missions. Alors, la question de la protection des civils, Alexandra Novoselov, c'est une vaste question.
Oui, là encore, un dilemme, mais je crois qu'on approche la protection des civils trop souvent en termes sécuritaires, ce qui est conduit à une impasse, parce que si vous faites ça, c'est-à-dire que vous devez mettre un soldat derrière chaque personne, ce qui est évidemment pas possible. Et je crois qu'il faut revenir à une conception qui fait de la protection des civils un objectif global, et que ce que fait une opération de maintien de la paix dans toutes ses dimensions concourt à cette protection des civils. Et je suis entièrement d'accord qu'aujourd'hui, tout à l'heure je parlais d'une approche plus modeste, ça passe par une priorisation des tâches à accomplir. C'est vrai que quand on se déploie, peut-être que la priorité, c'est pas forcément tout de suite le désarmement, c'est pas forcément tout de suite l'organisation d'élections, par exemple. Et c'est là où on parle aussi d'approche plus stratégique. Donc il faut à la fois revoir les priorité, c'est-à-dire séquencer le déploiement des casques bleus. Quand on arrive dans un pays, il faut toujours un élément plus sécuritaire, de stabilisation, mais qui doit progressivement passer la main à des éléments qui sont liés plus à l'état de droit, à des éléments type gendarmerie, policiers, formation, etc. Et bien entendu, tout au long, l'aspect politique qui gère, bien entendu, tous ces aspects-là. Mais donc c'est ça, parce que aujourd'hui, les contraintes financières qui pèsent sur les Nations Unies, sont énormes et donc on va plus pouvoir faire ces grosses missions multidimensionnelles où on déploie 15 000 civils et ces civils-là, il faut qu'ils soient protégés par des militaires. Il y a eu un article récemment qui disait par exemple au Mali, peut-être qu'on a été trop vite au Mali, on n'avait pas à déployer tout de suite des personnes qui s'occupent de la protection des enfants dans les conflits armés, des femmes, etc. Peut-être qu'il fallait se concentrer sur la partie militaire tout de suite, sur bien entendu la partie politique, mais militaire, et ensuite des actions de plus long terme, elles peuvent être menées, et d'ailleurs elles peuvent être aussi menées depuis New York. Des gens peuvent aussi regarder ces aspects-là depuis New York ou depuis Genève pour ce qui est de ces aspects-là un peu droits de l'homme dans ces opérations. Donc je crois que voilà, une approche plus stratégique, plus modeste, plus séquencée, c'est ça qui à mon avis permettra de redimensionner à leur juste mesure. Il faut rappeler aussi que on a déployé 130 000 hommes en Afghanistan. Enfin, l'OTAN a déployé 130 000 hommes en Afghanistan. Alors qu'au Mali, il y a moins de 10 000 hommes au Nord Mali, qui fait deux fois le territoire afghan. 50 000 hommes au Kosovo. Alors que on est à 20 000 hommes à l'est du Congo. Le Congo fait la taille de l'Europe continentale. Donc vous voyez, il faut aussi relativiser un certain nombre de choses.
En guise de conclusion, Jean-Marc de la Sablière, est-ce que le manque d'unité au sein des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies vous semble être un facteur important dans ces difficultés que connaissent les missions de paix de l'ONU ?
Oui, je pense que c'est l'une des difficultés. Et dans le cas des opérations de maintien de la paix, c'est pas seulement, je veux dire, les permanents. Alors, il y a d'abord une bonne nouvelle. C'est que il y a eu, ces trois dernières années, de très bons rapports, une prise de conscience, des débats importants. Il y a eu un débat au Conseil de sécurité présidé par le Premier ministre, par exemple, d'Éthiopie. Et de cet ensemble, on voit maintenant, enfin c'est le sentiment que j'ai, émerger un certain nombre de points sur lesquels il commence à y avoir des accords, notamment la priorité aux politiques, l'action avec les organisations régionales, enfin un certain nombre de points. Mais, en toute hypothèse, on a besoin de l'unité du Conseil de sécurité. On a besoin de l'unité du Conseil de sécurité et sur la question, quand c'est nécessaire d'utiliser à des fins tactiques la force. Et ça, bien sûr, on a les mandats quelquefois qui l'autorisent, mais dans la réalité, on constate que lorsque le secrétaire général est confronté à l'obligation, enfin l'obligation, confronté à l'ordre qu'il donne, à l'application des ordres qui sont donnés, que cette unité, elle n'est pas aussi forte qu'on pourrait le penser. Et sur le plan politique, pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises au cours de cette émission, la stratégie de sortie est politique, elle dépend d'accords politiques. Or, il faut pouvoir faire des pressions sur les gouvernements et sur les partis. Et donc, il faut pour ça l'unité du Conseil de sécurité. Car quand le Conseil de sécurité est uni, alors uni et déterminé, ça change beaucoup de choses.
Unité et détermination du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Jean-Marc de la Sablière, je rappelle que vous êtes ambassadeur de France, ancien représentant permanent de la France au Conseil de sécurité entre 2002 et 2007, enseignant à Sciences Po en charge du séminaire sur le Conseil de sécurité. Votre dernier ouvrage, Indispensable ONU, paru dans la collection Tribune du Monde des éditions Plomb. Et Alexandra Novoselov, chercheur invitée à l'International Peace Institute de New York, également chercheur associé au Centre Thucydide de l'Université de Paris 2, Panthéon Assas. Et je rappelle, Alexandra Novoselov, que vous avez dirigé l'ouvrage Le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance dans la collection Biblis des éditions du CNRS. Géopolitique, qui était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte.